Chapitre 5. Taisez-vous, méfiez-vous. Quand Pierre et Rick eurent fini d'arranger leurs vêtements, leur linge et leurs petites affaires, dans l'armoire et dans les tiroirs, ils sortirent au jardin pour respirer un moment. Pierre alluma une cigarette. « Il va être 9 heures, dit-il, tâtant sa montre. Je suppose qu'il fait déjà nuit. » « Pas nuit noire, on distingue les allées entre les arbres. C'est un joli jardin et pas mal grand. » « Promenons-nous un peu, que je me repère, » fit son cousin. Ils suivirent l'allée centrale assez large pour deux. Ils arrivèrent à un petit bassin rond, d'où fusait le bruit léger d'un mince jet d'eau qui s'éparpillait en gouttelettes. 3 sentiers partaient de là en éventail. L'un se dirigeait vers le potager, où l'on distinguait vaguement les rondeurs des gros choux et quelques hautes tiges échevelées par l'automne. Le sentier du milieu allait vers des arbres, un verger sans doute, et le troisième méandrait à travers un morceau d'herbe vers une haie et une palissade qui séparaient le jardin de la ruelle. « Très commode pour moi ce jardin, » dit Pierre. « Le plan en est simple et le bruit du jet d'eau m'orientera. Tiens, qu'est-ce qu'on entend ?» Un gong cria dans la palissade où Rick vit un pan d'ombre bouger. Une petite porte s'ouvrait et quelqu'un s'avança d'un pas assuré. C'était la silhouette d'un homme petit et rond qui s'arrêta à 2 pas de Pierre. Il y eut une pause d'un instant. « Je crois bien, » dit le visiteur, dont Rick distinguait maintenant le costume correct et même élégant, le léger pardessus clair qui flottait, l'ovale allongé du plastron, la pomme brillante d'un jonc anglais. Il y avait un bec de gaz à peu de distance dans la ruelle. « Je crois bien que je rencontre précisément celui que je cherchais, M. Pierre Royat. »« C'est moi, en effet, » dit Pierre. « Avec le petit cousin. » Rick se redressa pour qu'on vît bien qu'il n'était pas si petit que ça. « Je suis l'associé de M. Martin, Henri Gavenard. Je voulais ne pas tarder à vous souhaiter la bienvenue et je suis venu sitôt après mon dîner. » « Madame Amande m'a donné mes petites entrées par le jardin, le secret de la petite porte. Oh, un bien petit secret, mais encore faut-il le connaître. J'avais un technicien qui logeait chez Madame Amande, et quand nous avions à causer le soir, je venais tout droit par mon jardin à moi, qui se trouve de l'autre côté de la ruelle. C'est commode. » Monsieur Gavenard disait beaucoup de choses en peu de temps, d'un ton tout rond et bonhomme. « Vous avez fait bon voyage. Quelle corvée un voyage en temps de guerre !» Sa voix changea, devint émue et solennelle. « Mon associé, M. Martin, m'a mis au courant. Je sais que vous fûtes un magnifique combattant. Vous avez donné ce que vous aviez de plus précieux. Vous avez donné vos yeux à la France. »« Donner n'est peut-être pas le mot. Les Boches me les ont pris sans mon consentement. » dit Pierre avec un certain rire où il y avait un peu d'ironie, car il n'aimait pas beaucoup ce cliché qu'on lui avait déjà servi souvent. « Oui, oui, bien entendu, » s'empressa de dire M. Gavenard. « Le sacrifice nous est imposé. Moi, j'ai un fils dans l'aviation. Très exposé, vous pensez bien. Sa mère vit dans les transes. » La voix de M. Gavenard était d'un instrument très sensible et très sincère. Une vibration y passa qui, tout à coup, rendit sympathique à Pierre ce nouveau patron un peu bavard. « J'ai à vous remercier, dit-il, de nous avoir logés ici. Nous serons très bien. »« Je l'espère. L'usine est à 10 minutes. Ça vous fera une petite promenade. Si vous voulez, allons nous asseoir. Vous accepterez un cigare et nous causerons. » Il y avait un banc près de la haie. Rick s'assit modestement tout au bout et il entendit une conversation fort intéressante. « Vous étiez mécanicien dans le civil, » commença M. Gavenard. « Vous avez des idées, plus que ça, une petite invention, un perfectionnement qui s'adapterait à notre magnéto. »« Une simplification plutôt, » dit Pierre. « Simplifier, c'est ce qu'il nous faut. Je vais vous dire. Vous aimez mes cigares ?» « À Rome pour millionnaire, » répondit Pierre. « Non, non, pas encore millionnaire, mais ça viendra. » « Pourvu que la guerre dure, » ne put s'empêcher de dire le soldat aveugle avec l'impérissable amertume des combattants pour les civils de l'arrière. « Il y a des allusions qui ne m'atteignent pas, » fit M. Gavenard avec dignité. « Mon fils unique est dans l'aviation. C'est vrai, je vous demande pardon, concéda Pierre. Il faut des munitions à l'armée, il faut des moteurs, il faut des magnétos, dont nous en fabriquons. Notre petite usine, fondée par moi il y a 15 ans, j'étais contremaître, monsieur Royat, simple contremaître, je suis monté à la force du poignet. Notre petite usine s'est développée avec les capitaux que monsieur Martin y a mis 5 ans déjà avant la guerre. Il lui fallait une succursale en France. Vous voyez que je vous cause comme un membre de la famille, monsieur Royat. Je sais les heureuses perspectives que... votre séjour en Suisse... Enfin bref, pour en revenir à nos moutons, il faut intensifier la production par 2 moyens, augmenter la main-d'œuvre, 1. Le gouvernement nous fournit des ouvriers mobilisés. Simplifier la fabrication, 2. Ça, c'est l'affaire des techniciens. J'ai un but idéal, monsieur Royat. Rick prêtait une oreille à la conversation, l'autre à un petit grincement qu'il avait cru entendre derrière la palissade. Mais non, il n'entendait plus rien. Un but idéal, celui de sortir un magnéto par minute. Il s'arrêta après cette parole sublime. « Rien que ça, » dit Pierre. « Rien que ça, pourquoi pas. Les usines Ford sortent bien une auto toutes les 50 secondes. Je sais bien que c'est aux États-Unis avec la méthode Taylor. À propos, monsieur Royat, dites-vous un auto ou une auto, un magnéto ou une magnéto. Les opinions diffèrent. » « Oh, à moi, ça m'est égal, » dit Pierre. « À moi aussi. Je dis tantôt l'un, tantôt l'autre. Comme ça, je tombe juste une fois sur deux, » fit M. Gavenard en riant. « L'essentiel est qu'on sorte des magnétos. Nous avons des commandes tant que nous en pourrons faire. M. Martin m'écrit que votre invention pourra, par la suppression d'un organe et le temps gagné, augmenter la production du 25%. C'est exact ?» « Monsieur Martin est meilleur juge que moi, » dit Pierre. « On a fait un petit modèle dans ses ateliers, d'après mes dessins. On l'a essayé, il a donné des résultats. Monsieur Martin s'occupe à en prendre un brevet en Suisse. »« Et ce petit modèle, » demanda Monsieur Gavenard, « vous l'avez apporté ?»« Non, Monsieur Martin en avait besoin pour le brevet. Mais j'ai les dessins. Vous me prêterez un bon mécanicien qui travaillera sous mes indications. Un homme sûr. » « Je vous donnerai Matignon. Vous l'avez vu, c'est lui qui est allé vous prendre à la gare. Il est épatant comme habileté manuelle. Pas d'imagination pour un sou, il n'aurait pas inventé le fil à couper le beurre, mais il exécute tout ce qu'on veut. Pour conduire un atelier aussi, il n'a pas son pareil. Une discipline, une exactitude. Chaque chose et chaque homme à sa place. Il y a longtemps que vous l'avez ? 6 mois environ. Il a été mobilisé à l'arrière après une blessure assez vilaine dont il porte les traces. Si ça vous est égal, dit Pierre, vous laisserez Matignon où il est et vous me donnerez un petit mécanicien, même un apprenti. Il n'est pas nécessaire qu'il comprenne tout. Ah, bien, bien. Oui, je saisis, fit Monsieur Gavenard au bout d'un instant de méditation. Mais je répondrai de Matignon comme de moi-même. « Il est patriote, il faut l'entendre. Et votre invention est pour la France. »« Je n'ai pas encore de brevet, et d'ailleurs, vous avez des concurrents qui, eux aussi, cherchent les inventions. »« Parfaitement, parfaitement. Vos dessins sont-ils en lieu sûr ?» Pierre ne répondit pas. Il parut écouter, et dans la même seconde, Rick se penchait vers lui, chuchotant. « Il me semble que depuis un moment, j'entends des petits bruits derrière la palissade. »« Moi aussi, » dit Pierre. « Monsieur Gavenard, » continua-t-il à voix basse, « allez donc ouvrir la petite porte et voir s'il n'y a personne dans la ruelle. » Puis il reprit à haute voix pour couvrir les mouvements du patron. « Certainement, mes dessins sont en lieu sûr. Du reste, nous parlerons demain de tout cela quand je serai à l'usine. »« Oui, ce cigare est excellent. » Un Havane, je suppose. » Il continua à parler tout seul, en petites phrases insignifiantes, jusqu'à l'instant où M. Gavenard, suivi de Rick, qui l'avait accompagné à pas de loup, revint de sa brève expédition. Il n'y avait personne, ni dans la ruelle, ni au bout de la rue. C'était sans doute un chien qui grattait et qui s'est défilé. J'ai profité de l'occasion pour montrer le secret de la porte au petit. Ça pourra vous être commode. En prenant par la ruelle pour aller à l'usine, vous gagnez 3 bonnes minutes. N'y aurait-il pas un banc ailleurs, dans le milieu du jardin ? Pour causer, on est vraiment trop près de la palissade, dit Pierre. Vous avez raison, dit M. Gavenard, mais moi, voyez-vous, malgré toutes les affiches « Méfiez-vous, taisez-vous », je ne sais pas encore me méfier ni me taire. Ce n'est pas dans ma nature. Du reste, il est temps que je vous quitte. Vous avez besoin de repos. Je vous verrai demain matin à l'usine, j'y serai dès 8 heures. Heureux d'avoir fait votre connaissance, vous m'êtes très sympathique, ajouta le brave homme tout rond. C'est réciproque, dit Pierre, donc à demain. Une demi-heure plus tard, tandis qu'il s'apprêtait à se coucher, Pierre dit à son cousin « Tu es bien sûr de n'avoir rien vu dans la ruelle ?» M. Gavenard a un peu tâtonné pour trouver la serrure, et puis il bouchait la porte, tu comprends, je regardais sous son bras. S'il y avait là quelqu'un, il aura pu entendre qu'on allait vers la porte, il se sera éclipsé à gauche, où le bec de gaz n'éclairait pas. Mais qui veux-tu qui se soit mis là, à écouter, à espionner ? Peut-être quelqu'un qui avait perdu un bouton de manchette, fit Pierre d'un ton significatif. Rick en rêva, mais il dormit très bien tout de même, et le lendemain, ils étaient tous deux frais et dispos pour se rendre à l'usine par le chemin le plus court que Madame Amande leur indiqua minutieusement. Ne t'étonne pas si je ne dis rien, fit Pierre au bras de son jeune guide. Je vais compter mes pas d'un tournant à l'autre. Il y a 4 tournants de rue d'après Madame Amande. Je dois me rendre indépendant autant que possible. Le quartier n'est pas très passant, je pourrais m'y diriger seul. Beaucoup d'aveugles circulent seuls à Paris, dans les rues, dans le métro. À présent, laisse-moi compter. » En sortant de la ruelle, ils aboutissaient dans une rue tranquille. Pierre passa dans l'odeur d'une crèmerie, puis d'une boucherie. Plus loin, des gamins s'engouffraient sous le portail d'une école. Partout, Pierre trouvait des points de repère et les enregistrait dans sa mémoire tout en comptant. Avec le bout de sa canne, il frôlait le bord du trottoir. Des écoliers les croisèrent. Voyant les médailles du soldat aveugle, ils s'arrêtèrent, se mirent correctement au garde-à-vous et firent le salut militaire d'un air grave. Rick s'empressa d'en informer son compagnon. « Ils ont un bon instituteur, dit Pierre. Reste à savoir ce qui en restera dans 10 ans. J'ai peut-être tort, mais vois-tu, Rick, le français oublie vite. C'est un bien à certains égards. On pourra m'objecter, je le sais, que la statue de Strasbourg, sur la place de la Concorde, a été pendant 44 ans pieusement ornée de crêpes et d'immortelles. Ce n'est pas de l'oubli, cela. Mais j'oublie mes comptes en causant. » La grande porte de l'usine, panneau de fer, gond puissant, aux murs de chaque côté, étaient fermés quand ils arrivèrent. On n'entrait pas comme au moulin dans cette usine qui travaillait pour la guerre. Il fallut sonner, donner son nom au concierge, un mutilé amputé du bras droit. Gavenard employait un bon nombre de mutilés dans diverses fonctions, les payait largement, les traitait avec honneur. Après avoir refermé soigneusement la petite porte coupée dans la grande, le concierge accompagna les nouveaux venus jusqu'à un petit bâtiment qui s'élevait un peu à l'écart, au fond d'une cour dallée qu'ornaient quelques massifs de chrysanthèmes. C'étaient les bureaux. Tout alentour, l'air était rempli de bruit et de trépidation. L'énorme vibration du travail intense se répercutait jusque dans le sol. M. Gavenard lui-même, ayant vu s'approcher le petit groupe, parut au sommet du perron. « Entrez ici, » dit-il. Il introduisit Pierre et Rick dans une petite pièce claire où se trouvait une grande table avec une machine à écrire, des règles et des équerres, de larges feuilles de papier et, dans la fenêtre, un petit établi couvert d'outils. « Pour le moment, dit M. Gavenard, vous pouvez vous considérer comme chez vous dans cette pièce. Ce sera votre petit bureau. Êtes-vous prêt à commencer le travail tout de suite ?»« J'ai mes dessins avec moi, » répondit Pierre, tirant un portefeuille assez volumineux d'une des grandes poches de sa tunique. Car, bien que réformé, il continuait à porter des vêtements de coupe militaire avec les 4 grandes poches anglaises, ceinturons, col officier. et les bandes molletières. Soit dit en passant, Lucette y tenait beaucoup. Elle était fière de son beau soldat, elle se serait difficilement résignée à le voir échanger pour un complet civil la tunique bleu foncé et le béret des Alpins. Mais ceci est une frivole parenthèse. Cependant, poursuivit Pierre, j'aurais d'abord à vous demander un petit renseignement. Me serait-il possible de voir le camionneur qui a pris hier ma malle à la gare ? Assurément, s'il n'est pas en route en ce moment. Monsieur Gavenard téléphona, attendit une minute, donna un ordre. Un vieux brave homme grisonnant ne tarda pas à paraître. Voici Clément, dit le patron. Je voudrais bien savoir, dit Pierre en se tournant de son côté, si ma malle a été ouverte à l'octroi. Non, monsieur, non, dit le vieux d'une bonne voix un peu cassée. S'ils avaient voulu ouvrir, j'eusse été bien embarrassé, vu que j'avais bien le papier, mais pas de clé. Monsieur Matignon m'avait remis le papier seulement, et il m'a dit, vous mettrez la malle au garage. Au garage, répéta Pierre étonné, vous ne l'avez pas amené directement chez moi, rue Vaneau? Non, monsieur Matignon a dit comme ça que j'aurais pas le temps de faire le détour par la rue Vaneau avec le camion et qu'il enverrait la malle sur une petite charrette dans la soirée par deux de nos galopins. Est-ce qu'elle n'était pas en bon état? Si, si, mais à quelle heure l'avez-vous mise au garage? Vers 4 heures, je pense. Elle n'y est donc restée qu'une heure ou deux. Comment se fait-il, à votre avis, que l'octroi ait été si coulant? Ils ont dit comme ça qu'à Pontarlier, la douane avait mis une marque, une espèce de laissez-passer. Ça tombait bien, puisque je n'avais pas la clé. Oh, ma foi, si j'avais eu la clé, j'aurais pas mis la malle dans mon garage, je l'aurais menée rue Vaneau. Parce que, vous saisissez, avec une clé, et cette malle toute seule dans mon garage, il serait arrivé n'importe quoi, j'étais responsable. Précisément, dit Pierre, et votre garage, est-il fermé ? On ferme le soir, pas dans la journée. Tantôt un contremaître, tantôt un autre, s'amène pour inspecter les camions qui arrivent. Hier, c'était les barres d'acier. Monsieur Matignon s'est amené, je suppose. Moi, j'étais reparti pour une autre course. Ça vous contrarie, je vois, fit le vieux avec quelque inquiétude. Ça, j'avoue que j'aurais dû mettre la malle chez vous, directement, plutôt qu'au garage. Mais j'obéis, moi, que voulez-vous ? C'est pas que je manquerai d'obligeance, surtout pour un mutilé, allons donc. J'en suis bien sûr, dit Pierre, excusez toutes ces questions. Voici ce que c'est, et vous pourrez le dire à qui vous voudrez. En déballant notre malle, mon jeune cousin et moi, nous y avons trouvé un objet qui ne nous appartient pas, et je désire le rendre à qui de droit. Clément eut l'air stupéfait. Monsieur Gavenard claqua de la langue. Rick pensa... Ce n'est guère à droit ce que Pierre fait là. Le type au bouton de manchette va être sur ses gardes.